Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la médiarchie de Yves Citon, un néologisme inventé pour dénoncer l'emprise grandissante des masses médias sur les imaginaires collectifs. Entre essais politiques et théorie des médias, son auteur sera notre invité à partir de 12h55. Pour commencer, qu'ont en commun Olivia Rosenthal, Maëlys de Kerangal, François Beaune ou encore François Bégodeau. Ils publient tous chez le même éditeur et leur maison a 20 ans, 97-2017, le style vertical, liberté, singularité, une littérature sans frontières entre fiction et documentaire. Pour en parler, il figure au catalogue depuis 10 ans. Son nouveau roman Des châteaux qui brûlent vient de sortir. L'écrivain Arnaud Bertina est notre premier invité, accompagné de l'éditrice Jeanne Guyon, qui co-dirige la maison avec Yves Pagès depuis le départ de son fondateur Bernard Vallet. Une grande table comme chaque jour en réseaux sociaux et en ligne aussi sur franceculture.fr. Bienvenue.
La grande table. Olivia Gesbert.
Jeanne Guyon, Arnaud Bertina, bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être avec nous, bon anniversaire.
Merci.
Vous êtes toute jeune en fait, 20 ans, c'est pas énorme.
J'ai 17 ans dans la maison, mais c'est vrai que oui, on est jeune et ça nous rajeunit d'avoir 20 ans, même si ça nous a permis aussi de faire un petit bilan sur... ces années passées, ces titres parus, ces découvertes.
Et à 20 ans, on commence à envisager l'avenir aussi.
Oui, tout à fait. Et on se dit toujours d'ailleurs, comme un des titres de notre catalogue, 20 ans et après. Donc en fait, on se projette après. Aussi.
Arnaud Bertina, de vous, les éditions Verticales, publient d'abord un roman, Anima Motrix, puis un court récit, Ma solitude s'appelle Brando. Et en 2012, Je suis une aventure, roman encore dont un des protagonistes est le tennisman Roger Federer. Et aujourd'hui, Des châteaux qui brûlent, un titre à la Neil Young. Anima Motrix, manuscrit de celui de ce premier roman publié chez Vertical. Vous l'avez envoyé d'abord à Vertical, où il a essuyé plusieurs refus ailleurs avant que vous alliez là-bas.
Non, en fait, ma situation était celle-ci. J'étais publié par les éditions Actes Sud, j'avais fait deux livres avec eux, et puis dans un premier temps je leur avais présenté donc ce qui était Anima Motrix, et les discussions patinaient un petit peu, et donc au bout d'un moment j'ai eu besoin de comprendre, en le faisant lire ailleurs, j'ai eu besoin de comprendre si c'était moi qui était un peu à côté de la plaque ou s'il y avait pour de bon quelque chose à défendre dans le livre. Et voilà, la lecture de Bernard a été très très rapide et puis très très enthousiaste, et donc on a fait affaire.
Bernard Vallet, donc le fondateur des éditions Verticales, qui vous a depuis, Jeanne Guyon, laissé la main avec Yves Pagès. Vous co-dirigez aujourd'hui cette maison. Donc, vous envoyez le manuscrit ensuite à qui quand les discussions patinent avec Actes Sud? Directement à Vertical?
Oui, en fait, oui, parce que j'avais ce contact-là, comme ça, avec eux. Je les connaissais déjà, on se croisait, etc. Donc, il y avait un rapport amical qui remontait même au tout premier temps de la maison, parce qu'à l'époque, j'étais libraire, étudiant, et donc j'avais vu paraître les premiers livres de Vertical.
Et donc en 2006 que le roman est publié chez Vertical. Voilà. La maison donc a été fondée en 97. Il y a déjà un certain nombre de textes de livres qui avaient été publiés. Vous estimez que ce livre-là pouvait répondre à l'esprit Vertical?
Peut-être, c'est-à-dire, mais à l'esprit Vertical dans un sens assez large, c'est-à-dire un investissement intellectuel important dans la lecture des livres, c'est-à-dire aucune désinvolture, un appétit, une confiance dans la littérature, dans le pouvoir de la littérature, et peut-être que moi c'est l'énergie qui me porte, que j'ai envie de retrouver à chaque fois quand je suis lecteur ou quand j'écris un livre. J'ai cette confiance-là dans le pouvoir de la littérature. Et aussi une curiosité pour vivre pour les formes d'expérience aussi, c'est-à-dire ne pas rester dans les clous des formes que l'on connaît, des formes narratives qu'on connaît, etc. Et ça, je savais que chez eux, ils avaient aussi cette curiosité-là, et que donc, si quelque chose devait les rebuter dans le livre, ce serait pas ça au moins. Et que donc, on avait un terrain d'échange qui était exactement celui sur lequel je voulais me situer. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu cet enthousiasme-là, alors qu'Anima Motrix, c'est un livre un peu touffu, un peu... j'ai envie de dire, sans trop m'envoyer de fleurs, mais un peu vibrionnant, et ben, à aucun moment ça les a désarçonnés. Je crois même que c'est peut-être plutôt ça qui a créé de l'enthousiasme et qui leur a donné envie de le publier.
Alors, le nouveau Pertina, comme on dit, est sorti pour cette rentrée 2017. La nouvelle cuvée. Arnaud Bertina, Des châteaux qui brûlent. Jeanne Guyon, en quoi Arnaud Bertina est un auteur maison? Est-ce que vous arrivez à définir ce qui peut se dégager de lui, de son œuvre? Donc, trois romans aujourd'hui publiés chez vous et un court récit, Ma solitude s'appelle Brando. Et ce qui colle avec l'esprit Bertina que vous défendez?
Alors, peut-être déjà dans sa pratique d'écriture, il l'a dit hein, lui-même, il est en recherche, en quête. Il y a quelque chose aussi qui nous plaît, c'est que il y a quelque chose dans le sujet, les matières, et que ce soit d'ailleurs Anima Motrix, qui était quand même le cheminement inversé d'un homme politique impuissant qui revenait aux sources de d'émigration et finissait finalement aussi un petit peu comme dans Je suis une aventure en Afrique, dans un terreau, un lieu non occidental. Et bon, il y a cette quête là qui aussi dans la matière même politique, mais oui, les questions, des questions qui nous déplacent, nous, ça c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, et qu'il y a à nouveau ici, même si le roman se passe en Bretagne et dans une usine, dans un abattoir. Mais ce qu'il y a aussi, c'est cette quête, et il le dit souvent, il cherche quand même dans l'écriture à une à ne pas refaire la même chose tout en étant quand même complètement lui-même. Voilà. Donc on est tout le temps surpris. Il y a un travail stylistique très intéressant là sur les voix. Et cet ensemble nous a surpris par son sujet et la fantaisie qui va avec. Ça, c'est très très important pour nous. C'est la fantaisie qu'il y a chez Arnaud.
Arnaud Bertina, Jeanne Guyon, vertical, c'est le contraire d'horizontal. Mais qu'est-ce que ça nous dit de votre ligne éditoriale, ici, là-bas, à vertical? On va écouter les mots du fondateur Bernard Vallet, et c'était justement en 97, année de la fondation de la maison.
Dans cette notion de vertical, verticalité, il y a aussi cette idée que, bon, je veux dire, dans un sens assez ancien du mot, serait en fait comme se préparer à la guerre, quoi, se mettre debout, se préparer à affronter. Parce que je sais qu'en lançant une maison d'édition en 1997, rien n'est gagné, mais on va au combat, quoi.
Il faut effectivement tenir debout.
Voilà, tout à fait.
Avec un programme qu'on peut résumer, des livres qui ne tombent pas des mains.
Oui, c'est gentil. C'est tout à fait mon ambition. Vous disiez en préambule, effectivement, qu'un éditeur se doit de publier les textes qu'il aime. Et c'est vrai que c'est ce que j'entends faire. Au sens, là aussi, il n'y aura pas de... Le mot vertical n'est pas à prendre dans son sens orthopédique. Il est à prendre dans son sens, je veux dire... Il n'y a pas d'orthodoxie dans cette non plus. Mais je veux dire, d'autant pareil qu'il n'y a pas de ligne éditoriale. La ligne éditoriale sont les livres que j'aime, les rencontres que je fais avec des textes. Et voilà, et donc il y a des rencontres anciennes, puisque un des premiers auteurs que j'ai publié est un auteur que j'ai publié chez De Noël il y a 10 ans. Voilà.
Alors, vertical, ça rime aussi avec radical, avec expérimental, défendre une certaine littérature. Vous n'êtes plus les seuls aujourd'hui sur la place de Paris et ailleurs, des maisons d'édition comme POL qui existaient même avant vous, ou des collections comme L'Arpenteur, L'Arbalète pour Gallimard, Fiction et compagnie au Seuil, entre autres. Est-ce que c'est important quand même de se distinguer de ses concurrents, de se distinguer des autres maisons d'édition pour justifier sa place?
Alors moi, je parlerai pas. D'ailleurs, on ne parlera pas avec Yves Pagès de concurrence. On parlerait plutôt de confraternité. Il y a quand même aussi, pour nous, c'est un plaisir de voir émerger aussi de plus petites maisons d'édition. Et oui, on marche dans les pas de POL pour le travail. On est très admiratif de toute l'équipe et de Paul en particulier, ou aussi le travail chez l'Arbalète, qui pour nous, on travaille dans une même complicité de goût pour la littérature. Après, expérimental, je ne crois pas que ce soit exactement nous ce qui nous caractérise. On ne souhaite pas du tout faire une littérature qui se démarque, d'abord d'un désir de narration. Ça, c'est quand même assez important. Même dans le documentaire, il y a toujours pour nous, dans la littérature, un désir d'histoire. Et je pourrais dire quoi, de vertical, C'est difficile hein, de parler de l'intérieur de ce qui nous caractérise, mais je crois qu'il y a un souci, on s'en en a conscience, que la littérature interroge, voilà, et qu'elle ait aussi, qu'elle soit une part, certes, de narration, de qualité et de textuelle, stylistique et autres, mais aussi qu'elle fasse part d'une part de réflexion à la lecture et chez l'auteur qui s'empare. Voilà, de cette matière textuelle qui n'est... Voilà.
Arnaud Bertina, oui. Peut-être le point de vue de l'auteur. Est-ce que vous sentez une filiation, ou en tout cas une camaraderie, une complicité avec d'autres écrivains de la maison? On citait Olivia Rosenthal, Maëlys de Kerangal, François Beaune, Bégodeau, bien sûr, François oui, oui. aussi.
Ah oui, oui, il y a une... s'il n'y a pas une amitié constante, il y a en tout cas... Un grand respect, une grande curiosité, même des fois aussi une forme d'affection entre nous. Mais c'est pas du tout pour recomposer une famille. Hein. Le but c'est pas ça. On sait très bien que dans les familles il y a que de la névrose à échanger. Mais au contraire de s'en prémunir. Mais pour reprendre ce que disait Bernard, pour reprendre ce que disait Jeanne, je crois que le truc c'est ça, c'est un rapport très bagarreur au présent. Mais bagarreur au présent, ça veut dire aussi être en empathie ou être dans une grande curiosité vis-à-vis du présent. C'est-à-dire absolument pas établir une critique de l'époque, ou pas uniquement établir une critique de l'époque, être aussi et d'abord curieux pour tout ce qui se trame dans l'époque. C'est pour ça que chez Vertical, il y a beaucoup de textes qui ne sont pas des romans, qui sont dans un espèce de genre, voilà, à mi-chemin du documentaire, du récit, il n'y a pas que des romans. Et ça, c'est une vraie trace, c'est-à-dire de la même manière que ce qui m'a porté dans l'écriture de Des châteaux qui brûlent, c'est-à-dire vouloir décrire l'égalité des intelligences, vouloir prendre comme ça une quinzaine de personnes et montrer que chacun a ses raisons, que chacun a son intelligence, que ce soit les salariés de cet abattoir, le flic qui a l'abattoir en joue depuis un toit d'une autre usine, le préfet, le ministre, etc. De montrer qu'en fait, il y a cette égalité-là, il faut la postuler en permanence. Il faut postuler en permanence que les gens sont intelligents. Et je pense qu'il y a chez Vertical, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours un peu ce pari-là. C'est-à-dire ne pas être dans le dégoût de l'époque, qui est très répandu dans les médias, chez certains intellectuels, etc. Mais au contraire, de vouloir fouiller l'époque, d'aller au contact et de le faire avec beaucoup de joie, beaucoup d'entrain.
Et justement, vous êtes l'invité, Arnaud Bertina, des rencontres de Chaminadour à Guéret, dans la Creuse, pour rendre hommage à une grande plume de la littérature. Svetlana Alexievitch, Nobel de littérature en 2015, pour son œuvre polyphonique. Une œuvre qui est, là aussi, à la frontière, vraiment, du documentaire. C'est une écrivaine engagée, l'auteur de La fin de l'homme rouge et de La supplication. D'elle, vous dites aimer son souci de l'époque, son rapport aussi à l'histoire. Je fais partie d'une vaste représentation que nous jouons à l'aveugle, dont j'aimerais connaître le mouvement général. Écrire est le moyen dont je dispose pour essayer. Les livres ont le pouvoir de nous rendre voyants ou incandescents. Pour le monde soviétique, Svetlana Alexievitch est parvenue à force d'obstination à percevoir et à décrire cette lame de fond en peu de livres. C'est sa quête littéraire qui vous intéresse? Ça va dans le bon sens pour vous?
je suis
le bon sens de l'histoire.
Hein. Ah, d'accord. Je me voyais mal attribuer des bons points à Alexievitch. Le bon sens de l'histoire, je sais pas, parce que c'est pareil, c'est difficile de dire si les choses vont dans le bon sens ou pas. Et puis on voit bien l'évolution sur les 30 dernières années de la Russie. C'est une évolution quand même qui est très compliquée. Donc dire si ça va dans le bon sens, je sais pas. En revanche, moi, ce qui m'impressionne dans son œuvre, c'est ce que je dis dans les lignes que vous venez de lire, c'est la capacité à la fois à être dans le présent, c'est-à-dire à être dans la rencontre avec les gens qu'elle va interroger, etc. Et en même temps aussi à être immédiatement sur une échelle un peu plus vaste, et de voir apparaître justement la fin complète d'un régime. Et ça me surprend beaucoup. On a ça un peu dans les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, c'est-à-dire la capacité à embrasser tout d'un coup un pan de l'histoire beaucoup plus large que sa propre vie. Et oui, ça, c'est des choses qui sont fascinantes et que peuvent permettre l'écriture, c'est-à-dire à force de livres, de finir par voir qu'il y a une cohérence dans les livres qu'on écrit, et de voir de quelle manière cette cohérence, elle est rattachée à l'époque. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur l'état de notre société, de notre époque, sur les valeurs de notre époque, de quelle manière elle se bagarre avec ces valeurs-là, de quelle manière elle essaye de construire aussi des choses positives, parce que la littérature, c'est pas du tout que la critique, c'est évidemment aussi construire des puissances, c'est débusquer des puissances. Et donc ça, c'est une tâche, oui, qui est très enthousiasmante et qui permet ensuite de s'inscrire, enfin d'observer l'histoire. Quoi.
Vous avez en commun de vous intéresser, vous l'évoquiez, au réel et à des gens simples, ordinaires, même si elle récuse le terme, et vous aussi peut-être.
Нет, люди есть люди, везде есть интеллигенты, есть очень интересные люди, простые люди есть, интересные, плохие. Потому что у меня герои есть и
Les gens sont les gens, il y a des gens effectivement cultivés, des gens qui sont moins, il y a des gens bien, il y a des gens qui sont pas bien, mais je ne sépare pas en fait les catégories des gens. Les héros de mes livres, je n'ai jamais dit qu'il s'agissait là de gens simples parce que je ne les catégorise pas en tant que tels, parce que je pense profondément qu'il n'y a pas de gens simples.
Например, рассказ книга Чернобыль, мольба, да, и там первый рассказ о любви.
Dans mon livre, La Supplication, si vous vous souvenez du premier récit, c'est un récit sur l'amour, sur la mort, sur une femme qui enterre son mari, qui a été un liquidateur. On pourrait presque dire qu'il s'agit d'une histoire presque shakespearienne, alors qu'elle n'est qu'une simple cuisinière. Donc, peut-on dire d'elle qu'elle est une personne simple ?
Dans les châteaux ou des châteaux qui brûlent, vos héros sont les salariés d'un abattoir placé en liquidation judiciaire, vous l'évoquiez. Mais il y a aussi un secrétaire d'État, entre autres, un ministre, on y reviendra. Vous, vous considérez donner la parole à des gens simples, ou ce mot-là aussi,
vous ne le retenez pas. Non, je ne le retiens pas du tout, parce que vous savez, en fait, qu'est-ce que c'est écrire ? C'est justement, c'est contester toutes les étiquettes, c'est-à-dire que c'est... En fait, quand on fait un livre de 400 pages, c'est justement parce que aucune étiquette ne tient et qu'il faut faire des phrases. C'est-à-dire, si je dis de telle ou telle personne, c'est une personne simple, mais ça, pardon, mais c'est d'une violence incroyable de ramener une personne, ou si je dis de Jeanne qu'elle est joyeuse, bah, peut-être elle aura envie de se débattre et de dire, bah non, je suis pas que joyeuse, je suis aussi mélancolique, etc., etc. Et donc, en fait, en plus, bon, il se trouve que gens simples, c'est une étiquette dévalorisante.
Mais il y a le côté péjoratif, mais il y a peut-être aussi cette idée sur laquelle revenait Alexievitch de gens ordinaires, c'est-à-dire dans le sens de voix qui n'ont habituellement pas voix au chapitre et aussi d'anonymes.
Mais dès qu'on s'y arrête, eh ben, on se rend compte qu'il n'y a plus rien d'ordinaire. Et c'est ça qui est en jeu en permanence dans Alexievitch, c'est qu'en 3 pages, une personne, effectivement une personne de la rue, qu'elle a été rencontrée, etc., en 3 pages, tout d'un coup, elle le dit, on est tout de suite à Shakespeare. Et c'est ça qui est fantastique dans la littérature, c'est justement de dire tout ce qui est présenté la plupart du temps dans les médias, je vous prends les mêmes personnes et je vais vous les montrer sous un jour mais radicalement différent. Et sans tricher, sans les maquiller, c'est pas l'effet de la télé, c'est je leur mets pas du rouge aux joues, etc. Mais tout d'un coup, juste vous tendez l'oreille, vous écoutez les murmures, vous écoutez les moments où ils se corrigent et vous avez tout d'un coup des morceaux de vie bruts, mais poignant, déchirant et bouleversant d'intelligence.
Et dans votre roman, ça va au-delà du procédé stylistique, c'est vraiment la structure du livre. En tête de chaque chapitre, vous indiquez qui parle et sa fonction sociale ou sa fonction dans l'entreprise. Conseillère du ministre, salarié, secrétaire dans les bureaux. À travers ce procédé, vous faites quoi ? Vous multipliez les points de vue, vous créez une sorte de concert de voix et de subjectivité. Il y a l'idée que dans l'addition de toutes ces individualités, c'est ça qui va faire le collectif ou qui va raconter un destin collectif ?
Exactement. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup là dans ce livre, comme aussi dans les autres, quand il s'agit des réfugiés, c'est de montrer une situation de domination, donc là, de domination sociale, économique, de montrer aussi le plafond de verre contre lequel leur colère se heurte. Et c'était de montrer à la fois un collectif, comment il se fabrique, c'est-à-dire comment à un moment il peut y avoir un mouvement de fusion et d'enthousiasme, mais comment aussi il s'effrite aussi dans le même moment, quoi. C'est-à-dire à quel point des fois les énergies collectives elles sont fragiles et à quel point les initiatives de tout d'un coup un tel ou un tel peuvent briser une grève, peuvent briser une démarche politique, etc. Donc je voulais à la fois qu'il y ait ce concert des voix, comme vous dites, les montrer en harmonie, mais aussi pas raconter d'histoire, c'est-à-dire pas faire quelque chose qui tricherait avec la réalité, parce que dans la réalité les collectifs c'est toujours compliqué, c'est toujours très fragile. Et donc c'est cette tragédie-là que j'essaye de décrire, c'est-à-dire comment à un moment chacun croit à la sincérité de l'autre, et puis comment à un moment, tout d'un coup, avec l'effet d'un petit coup de vent ou d'une rumeur, comment ça peut tout d'un coup s'effriter et virer à la catastrophe.
Et comment, avec cette matière, faire littérature après Gérard Mordillat, Sorche Chalandon, vous, en cette rentrée, Gérard Mordillat déjà hier, et notamment aussi François Bon, auquel vous vous référez pour son roman Diou, paru chez Fayard. Écoutez ce qu'il en dit.
Le paradoxe, c'est que dans ces frictions, dans ces cassures, maintenant le réel se documente lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'enquête. Des enquêtes, il y en a à foison, il y en a des très belles. Je pense à Daniel Linhart, à ce livre « Perte d'emploi, perte de soi » avec les femmes de chez Chausson, ou le travail de Beau et Pialou aussi sur Montbéliard ou les révoltes urbaines. Donc ce travail d'enquête, il prolifère déjà. Enfin, il est déjà autosuffisant et par des gens complètement dignes de le faire. Par contre, on bute toujours sur les mêmes archétypes, les mêmes questions, les questions du temps, les questions de la mort, les questions, et surtout la question de la langue. C'est-à-dire une phrase qui me heurte toujours, c'est une phrase de la Chambre de commerce et d'industrie de Lorraine. On constate comme ailleurs une augmentation du taux des suicides et des divorces, ainsi qu'une prolifération des cancers. Bon, sur ce même, dans ce même emballage syntaxique complètement raide, on met des choses qui n'ont rien à voir, et en particulier comment le corps intériorise par la maladie quelque chose qui n'est dû qu'à une manœuvre cynique du plus haut capital en complicité avec le politique.
Le langage, la langue, vous avez choisi, vous, Arnaud Bertina, un style direct, proche du témoignage, avec ses hésitations, un langage assez parlé, des ruptures aussi, qui participent de cette impression et nous font entrer dans la psychologie, l'intériorité des personnages par leurs mots. Vanessa Perlotta, salariée, par exemple, et s'en prendre aux familles régnantes qui préfèrent continuer à vivre sur les subventions à l'export, salut patron, en se foutant de préparer le jour où elles tomberont plus, ce serait pas, écrit justement d'une manière assez parlée, autre personnage, Pascal Monville, secrétaire d'État, dire à quelqu'un, mais si, tu as envie de danser, est tout de même une chose étrange. C'était avant les premières 72 heures, avant que la fatigue, trois petits points. Vous avez choisi une écriture très proche, là encore, du réel. Pourquoi ?
Parce que le quand on écrit, que l'on prenne des personnages de fiction ou des personnages référencés qui existent hors du livre, le but est toujours le même, de ne jamais caricaturer les gens, d'essayer de se mettre exactement dans leur regard, leur corps, leur intelligence. Or, si on fait ça, même là, moi, en ce moment, il y a des phrases que je ne termine pas. C'est-à-dire, tout d'un coup, je passe à un autre bout d'idée, je bricole, je sais pas ce que je vais dire dans deux minutes, etc. On cherche, on tâtonne. Et c'est très important que l'écrivain ne soit pas dans une position de surplomb par rapport à ça. Parce que dans ce cas-là, il va donner que son intelligence à lui. Et il va pas arriver à accéder à l'intelligence de ces personnages qui sont, eux, dans cette situation-là de violence qui leur est faite, etc.
Éviter la syntaxe raide, comme disait François.
Oui, et parce que la syntaxe raide, en fait, c'est un ordre qui s'impose à l'expérience, en fait. Et il faut arriver à faire que, si on fait un nouveau livre, il faut que ce soit l'expérience qui devienne la nouvelle marque. Alors que si j'arrive avec mes phrases toutes bouclées, avec je sais ce que je fais à la fin du livre, etc., etc., ou je sais ce que va devenir ce personnage, eh bien obligatoirement je triche. C'est-à-dire je plaque ma petite intelligence, alors que ce que je voulais faire, c'était débusquer l'intelligence collective.
Jeanne Guyon, vos auteurs.
Je voulais juste ajouter un truc. Enfin, c'est-à-dire que dans ton livre aussi, les personnages ont eu une situation totalement inédite, puisque la chaîne de l'abattoir s'arrête et tout d'un coup, tous les personnages se retrouvent dans une situation mais absolument à la fois fracassante, réjouissante, inouïe. Et donc tous les personnages aussi ont quelque chose en eux avec ces points de suspension parce qu'ils ne savent pas, ils découvrent tous ensemble. Exactement. Collectivement et individuellement un vivre ensemble ou un parler ensemble qui est extraordinaire. Et même le personnage de Célida Berkane, qui est la conseillère et qui est à l'extérieur rejetée sur le parking au moment de la séquestration du ministre, elle-même est fracassée par cette expérience et va s'ouvrir même physiquement, enfin, il y a des scènes même érotiques où elle est embarquée dans une situation où elle ne comprend presque rien.
Et il y a une temporalité, c'est un roman qui s'inscrit sur une longue semaine avec le regard, les voix, on l'évoquait de chacun. Jeanne Guyon, vos auteurs, est-ce qu'ils n'ont pas aussi en commun un sens de la musicalité dans l'écriture particulière?
On en parlait tout
et
à
ils
l'heure.
Sont touche à tout en fait, un peu tous. Hein. On peut citer Bégodeau et François Bégodeau et ses liens avec le cinéma, Olivia Rosenthal qui s'est attaquée au théâtre, Maëlys de Kerangal qui a été elle-même adaptée pour son roman Réparer les vivants, Arnaud Catherine qui travaille aussi avec Florent Marchais, le chanteur et musicien. Il y a ces correspondances dans l'écriture qui se retrouvent aussi dans la vie de vos écrivains.
Oui, la musicalité. Alors, est-ce que c'est la musique de l'écriture? Est-ce que c'est la musique de la pensée? Est-ce que c'est... Alors, il y a aussi peut-être l'humour et un jeu aussi. Peut-être la musique apporte quelque chose et une distance que l'humour contribue aussi à renforcer. En tout cas, on est sensible à cela, mais il y a absolument pas... On n'est pas les chefs d'orchestre des écrivains, des auteurs. Ils ont chacun parfois, certes, une petite musique, mais aussi chaque livre apporte son lot comme une nouvelle pièce et c'est jamais carré.
Jeanne Guyon, rapidement, la maison était indépendante au départ, les éditions Verticales. Elle s'est ensuite adossée aux éditions du Seuil, puis a rejoint Gallimard en 2005. On imagine que vous pariez à la fois sur des auteurs, mais aussi sur des textes, ce qui est important, parce que parier sur des auteurs, ça veut dire avoir le droit pour un auteur à l'erreur et laisser une œuvre, à une œuvre le temps de s'installer, et à un auteur le temps de se trouver. Verticales, c'est une maison qui a connu quelques beaux succès ces dernières années, dont le Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal, 140 000 exemplaires vendus en grand format, Entre les murs de François Bégodeau qui était sorti en 2006, plus de 70 000 exemplaires, ou encore Que font les reines après Noël de Olivia Rosenthal, autour de 40 000 exemplaires. On sent cet équilibre pour vous à trouver entre valeurs sûres et prise de risque. Oscar Wilde disait, si on peut trouver la jouissance à lire et à relire un livre, il n'est d'aucune utilité de le lire même une fois. Qu'est-ce qu'un bon livre pour vous?
C'est celui qui s'épuise pas du tout à la quatrième ou cinquième lecture, ça c'est clair, un manuscrit qui supporte notre regard non innocent après travail, retravail de l'auteur. C'est un livre qui est fait pour le long terme. Hein. Franchement, c'est une expérience de lecture qui est comme un coup près et voilà.
Parmi les romans que vous auriez envie de défendre en cette rentrée, il y a le Bertina, ça c'est chose sûre, donc Des châteaux qui brûlent, et peut-être citons aussi le Guillaume Poix, Les fils conducteurs, qui est sorti, qui est apparu là
en
fin
temps,
août,
le 24
en même
août,
temps.
Oui.
Vient de nous rejoindre l'invité de la seconde partie de l'émission, Yves Citon, professeur de littérature, qui vient lui nous parler de sa médiarchie. Il sera donc l'invité de l'actualité des idées, deuxième partie de la Grande Table. Yves Citon, bonjour.
Bonjour.
Professeur de littérature, vous avez du lire du Vertical. Où est-ce que vous classez cette maison dans votre paysage littéraire?
Ah, tout en haut, hein, Vertical. Tout en haut, avec des gens comme Hugues Jalon, Anne-James Chaton, que j'aime vraiment beaucoup, et qui me semble représenter un devenir de l'écriture narrative. Alors on peut l'appeler romanesque ou post-romanesque, ou au-delà de ce qu'on faisait avec le roman dans les décennies passées. Et là, j'ai beaucoup apprécié ce que disait Arnaud tout à l'heure sur le fait de jamais caricaturer. Il me semble que là, on est dans la spécificité du médium d'écriture littéraire, d'écriture romanesque, d'écriture narrative, alors que, comme on le verra peut-être tout à l'heure, en tant que journaliste, vous devez toujours caricaturer. Vous êtes là pour ça, et c'est ce qu'on attend de vous. C'est pour ça qu'on a besoin de romanciers, peut-être.
Alors, on en discutera tout à l'heure, Yves Citon. Le roman, quand même, la narration comme médium, nous assujettit un peu moins que la télé, hein, aurait-on tendance à dire. L'édition, elle avait beaucoup de poids hier. Le roman, en tout cas, est-ce qu'elle garde encore aujourd'hui son influence sur nos imaginaires? Est-ce qu'il y a une particularité, quand même, du roman, de cette narration, qui nous permettrait de nous réapproprier le temps?
Alors je crois de toute façon que les médias ne se remplacent jamais mais se superposent. Donc il y a du roman dans les films, souvent les gens qui écrivent des scénarios de films, qui pensent des films, ils ont des pensées romanesques en tête, donc le roman est un petit peu partout. On peut se rappeler qu'au début du roman, au XVIIIe siècle, c'était le nouveau médium qui faisait plein d'horreurs. Comme aujourd'hui on se méfie du jeu vidéo, les romans rendaient les femmes dévergondées, rendaient les jeunes fous, etc. Donc ça a un petit peu changé, aujourd'hui on critique ou on a peur d'autres médias, mais je crois que la puissance anti-caricatural du roman reste plus forte que jamais.
Yves Citon, vous restez avec nous, on vous retrouve à partir de 12h55 pour la deuxième partie de la Grande Table. Peut-être interviendrez-vous aussi dans le journal d'Antoine Mercier, journaliste par excellence. On entend d'ailleurs les journalistes de la rédaction qui sont en train de nous rejoindre autour de cette Grande Table. Merci beaucoup à vous Jeanne Guyon et merci à vous Arnaud Bertina.
Merci.
Les 20 ans donc de Vertical et puis les rencontres de Chaminadour où l'on vous retrouvera. Toutes les dates à retrouver à la page de la Grande Table sur franceculture.fr.